Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 28 mai 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, comment ça va depuis la dernière semaine sur les marchés financiers?
C'est somme toute une assez bonne semaine. Là. C'est un petit peu plus tranquille là, par rapport aux deux semaines précédentes là, qui avaient été vraiment, vraiment fortes. Le TSX est en hausse de 0,8% cette semaine, donc ça va bien. Côté américain, une baisse de 0,3% sur le S&P 500, mais une hausse de 0,3% sur le Nasdaq. On vous rappelle que les marchés étaient fermés, les marchés américains étaient fermés lundi. Donc hier, on a eu une très, très bonne journée en bourse. Entre autres, durant la fin de semaine, là, on a appris que la menace de tarifs sur l'Union européenne était repoussée. Donc, encore un peu le même carnet de jeu là, de Trump qui menace des tarifs puis ensuite qui les retire. Donc, le marché a réagi là, de façon positive. Ça nous amène à donc des rendements positifs pour le mois de mai, 5,6% sur le TSX, 6,5% sur le S&P 500, 9,9% sur le Nasdaq. Donc, ça va, somme toute, assez bien. Les marchés américains là, demeurent donc en légère baisse par rapport au sommet là, de la fin janvier, mais en hausse depuis le début de l'année. On se souvient, janvier avait été très, très bon. Ensuite, février, mars, avril, tranquille. Puis là, bon, mai, ça remonte. Les taux d'intérêt ont rebaissé un peu là, dernièrement. Le 10 ans américain à 4,43. On était à 4,48 la semaine passée. Donc, c'est pas beaucoup, mais quand même. On a les banques, là, donc du côté canadien, les banques qui ont commencé à rapporter les résultats financiers. La banque TD un peu plus tôt cette semaine. En fait, je pense que c'est jeudi passé. BMO ce matin, très bon résultat financier dans les deux cas. La Banque Royale, ça va venir un petit peu plus tard. En général, là, la saison des résultats financiers, autant du côté américain, a été quand même, somme toute, très bien. Et là, ben, ça s'annonce bien. Là, quand les banques vont bien, en général, l'économie va relativement bien. Ce soir, on a Nvidia qui va annoncer ses résultats financiers. C'est toujours un titre, c'est le titre d'intelligence artificielle là, depuis quelques années. Donc, c'est toujours un titre qui a un impact sur le marché. Si Nvidia va très bien ce soir, ben, ça devrait entraîner le marché à la hausse demain. Quand on regarde un peu là, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, ben, on se rend compte que les titres qui allaient moins bien l'année passée, hein, les banques TD qui a eu toutes sortes d'ennuis, ben, en hausse de 23% année à jour. Même Northland Power qui souffle là, depuis quelques temps, en hausse de 14% année à jour. Dollarama, ce n'est pas un titre là, que tous nos clients détiennent, mais plusieurs là, quand même, c'est un titre québécois là, que beaucoup de gens suivent. 24% cette année. TELUS, même chose, là, toutes les télécoms ont un petit peu de difficulté, mais TELUS, 13% de hausse cette année. Si on regarde du côté américain, bon, les titres qui ont été vraiment très, très bons dans les dernières années, Apple est en baisse de 20% depuis le début de l'année, Google en baisse de 8%, Amazon en baisse de 6%. Donc, tu sais, c'est toujours un peu de taper sur le clou de la diversification. Des fois, on a des secteurs qui peuvent très bien performer pendant un certain temps, puis on a envie de tout vendre le reste, puis juste investir là-dedans. Puis éventuellement, ben, la vague change, le courant change, et puis là, soudainement, ben, on est heureux d'avoir ces vieux titres-là qui ne performaient pas depuis un an ou deux, puis là, c'est eux qui traînent le portefeuille à la baisse.
Donc, à la hausse.
À la hausse, c'est-à-dire, ouais, merci. On surveille ça, ça va quand même assez bien, puis vraiment, c'est l'important, c'est les résultats financiers des entreprises. Tant que l'économie performe relativement bien, puis que les entreprises génèrent des bénéfices à la hausse, ben la bourse va refléter cette hausse des bénéfices-là, pourvu que les attentes là, et que les multiples d'évaluation demeurent relativement constants. C'est quand même assez... sont un peu étirés, là, mais c'est pas, on n'est pas dans des zones de bulles du tout, donc ça devrait bien aller.
Merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, nous vous proposons un sujet parfait pour la saison. Comment profiter de l'été pour simplifier vos finances ainsi que votre gestion de patrimoine. Donc, on pense pas gestion de patrimoine, tout ça, durant l'été, mais on devrait, des fois, après un beau barbecue, un petit verre, ben, ouais. On peut penser à certains items. Donc, aujourd'hui, nous avons deux idées plus faciles pour vous et deux idées avec un petit peu plus de défis. Donc, on vous met au défi. Nous allons commencer par le plus simple.
Ouais.
Est-ce qu'on peut parler un peu de automatiser ce qui peut être automatisé?
Ouais, on parle Ça peut être votre épargne régulière, de cotiser au CELI, de cotiser au REER. Donc, tu sais, souvent, on a des clients qui disent « Ah, ouais, je devrais donc. » Donc, tu sais, programmez-le, appelez-nous, puis dites-nous « Bon, ben je veux mettre 500$ par mois dans mon REER, puis 500$ par mois dans mon CELI, par exemple. » Si vous en avez déjà une épargne automatisée, augmentez-la. Donc, tu sais, on parle d'inflation, mais si vous épargnez exactement le même montant mensuel qu'il y a 5 ans, bien, il y a eu de l'inflation par-dessus et vous devriez appliquer un taux d'inflation sur votre épargne mensuelle, l'augmenter ne serait-ce que de 10 ou 20 $ par mois. À la longue, c'est sur plusieurs années, ça fait une différence qui peut être importante. On parle aussi d'automatiser, par exemple, les paiements de factures, les paiements d'hydro, les paiements de carte de crédit. Généralement, on le fait de façon un peu mécanique, mais quand même, ça peut arriver qu'on on l'oublie, puis là, Visa nous charge un intérêt sur le mois. Ça se programme, on est capable de programmer soit directement avec l'émetteur de la carte de payer le solde total à la fin du mois, la date de la facture, ou sur notre site bancaire, par exemple, notre facture d'hydro, bien, on programme à chaque mois. Si vous êtes inscrit au paiement nivelé là, avec Hydro, par exemple, on peut automatiser le paiement de la facture. Comme ça, on n'a pas besoin de s'en occuper.
Donc, c'est un petit 15 minutes cet été pour mettre ça en place. Et puis, c'est du temps gagné pour le reste de l'année.
C'est pas exact, c'est pas très compliqué. On parle de peut-être créer un fonds d'urgence. Là, on sait qu'on recommande souvent là, d'avoir 3 à 6 mois d'encaisse disponible en cas de pépin. Donc, de s'ouvrir un compte d'épargne puis de transférer un montant fixe. Les taxes municipales, par exemple, il y en a qui le font. Des fois, c'est intégré dans le paiement hypothécaire, mais sinon, on se trouve un compte d'épargne puis on calcule le total de nos taxes municipales scolaires par année, divisé par 12, puis à chaque mois ou à chaque période de paye, on transfère un montant pour être sûr que ce soit que l'argent soit là puis qu'on n'ait pas à se casser la tête quand c'est le temps de payer les taxes.
Puis c'est vraiment quelque chose que vous pouvez partager avec les jeunes dans votre vie. Hein? C'est des habitudes que vous faites vous-même très facilement, très simplement. Peut-être c'est déjà en place, mais puis donc on n'a pas tendance à en parler aux plus jeunes, mais c'est une bonne pratique de mettre en place. Ça, c'en est une que tu m'en parles souvent quand tu regardes mes courriels personnels, plein de courriels. Faites le ménage de vos abonnements.
Oui, donc là, on va vous mettre au défi de vous désabonner à des listes d'envoi de courriels. Donc, quand vous recevez des courriels de toutes sortes de magasins, puis on fait juste le déliter, allez dans le bas du courriel et cliquez sur « Désabonner ». Si vous en faites 10 durant l'été, ça fera ça de moins à déliter le restant de vos jours.
Je m'engage, Martin, je m'engage.
Et l'autre chose, c'est aller dans vos abonnements. Donc, sortez votre carte de crédit, votre relevé, passez à travers ça, ou aller sur votre compte iCloud là, avec votre iPhone, par exemple, et aller voir les abonnements que vous avez. Puis, cancellez-en une. Choisissez-en une au hasard, cancellez-la. Fait que là, je viens de vous donner entre 100 et 200 $ dans vos poches pour l'année. C'est sûr qu'il y en a une que vous payez pour rien. J'en ai fait une ce matin, Paramount Plus. On a écouté une émission, c'était super bon, la série est finie. On n'a pas regardé Paramount Plus depuis 3 mois parce que la série est finie. Ben, je l'ai cancellé, puis on se réabonnera quand ce sera le temps. Donc, essayez de faire ça, c'est facile, c'est rapide, clic, 3 clics, bang, c'est fini. Puis si jamais on change d'idée, on peut toujours se réabonner, mais les mois où on n'aura pas payé, ce sera de l'argent de plus dans nos poches. Et on essaie de sauver des frais sur les portefeuilles de placement, on est capable de sauver des frais aussi sur des abonnements inutiles.
Puis ça va au moins vous donner une crème glacée molle cet été. celle-là, elle est plus difficile. Là, on rentre dans le plus compliqué. Mettez à jour vos bénéficiaires, liquidateurs ou mandataires.
Ouais, donc là, ça demande un petit effort. Là, t'sais, là, c'est plus qu'un 15 minutes. Là, c'est d'aller sortir ces polices d'assurance ou quand on reçoit les relevés annuels de nos polices d'assurance, vérifier qui sont les bénéficiaires. Si c'est indiqué seulement la succession, c'est probablement pas la meilleure idée. C'est peut-être, ça peut des fois être pertinent, là, mais c'est souvent pas le cas. Faites l'effort là, d'analyser la situation. Parlez-nous aux besoins. Là. Est-ce que c'est correct? Relisez votre testament. Si ça fait plus de 5 ans que vous n'avez pas lu votre testament, relisez votre testament. Le diable est dans les détails. Donc, c'est souvent... qui j'ai choisi comme liquidateur, c'est correct, puis à qui je lègue mon argent, c'est correct. Par contre, c'est qui le liquidateur de remplacement? C'est qui les bénéficiaires en cas de prédécès? Il y a toutes sortes d'autres clauses qui peuvent être un problème. Et avec ça, en même temps, les bénéficiaires des polices d'assurance, par exemple.
Et les fonds de pension, hein?
Et sur les fonds de pension, donc au Québec, il y a des lois qui prévoient que le conjoint de fait ou marié, donc même si on n'est pas marié, si on a un conjoint au moment de débuter la retraite, notre conjoint est un bénéficiaire privilégié. Donc, automatiquement, c'est le conjoint. Même si on nomme quelqu'un d'autre, c'est le conjoint qui va être le bénéficiaire du fonds de pension. Si je n'ai pas de conjoint, là, c'est une bonne idée de nommer peut-être les enfants. Là, il y a une portion là, qui peut aller aux enfants advenant le décès durant la retraite. Donc, très important. Pour nos auditeurs qui demeurent à l'extérieur du Québec, donc très important de nommer des bénéficiaires sur les régimes. Donc, on n'a souvent pas le réflexe de le faire dans les REER, les CELI, parce qu'au Québec, ce n'est pas applicable. Mais les résidents d'Ontario, d'Alberta, Colombie-Britannique, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent parce qu'ils parlent en anglais en général.
Mais si vous avez de la famille là-bas, c'est vraiment un point important.
Il y a le concept de probate, là, donc il y a une taxe sur les successions à l'extérieur du Québec. Donc, c'est très important de nommer des bénéficiaires.
Absolument. Puis, c'est pas le fun de discuter de testament et de penser de succession l'été, mais des fois qu'on est réunis en famille, on est relax, on est assis à côté de la piscine, mais c'est peut-être un bon moment de dire, on devrait avoir une conversation parce que t'es liquidateur de ma succession. Ou si vous savez que vous êtes liquidateur, d'introduire le sujet pour avoir une bonne discussion.
L'été, c'est la saison des mariages. C'est un événement important. Donc, si ça vous arrive à vous ou vous assistez à un mariage, des fois, là, tu sais, après 3-4 verres de vin, c'est une bonne idée de soulever. As-tu changé tes bénéficiaires
sur tes contrats d'assurance? Après 3-4 verres de vin, pensez à Martin et Sarah. Donc, l'autre point aussi, c'est, puis celle-là, elle est aussi un petit peu plus difficile, requiert un peu de travail, mais peut être super utile, établir un budget sur Excel.
Oui, donc... La majorité des gens n'ont pas un budget formel. On a intuitivement une idée de combien on dépense. Nous, Sarah, depuis 15-20 ans, là, on a un fichier Excel qu'on traîne, qu'on met à jour là, périodiquement. C'est pas très compliqué. Une fois que c'est fait, là, on se fait des petites formules. Là. Donc, on calcule nos revenus. Ceux qui ont des revenus fixes, c'est facile. Ceux qui sont plus variables, ben, comme nous, ben, ça change un petit peu d'un mois à l'autre. On met à jour là, mensuellement combien on pense que ça va, qu'il va rentrer. On a des dépenses fixes hein, qui sortent à tous les mois, qu'on a automatisées au point 1. Donc, on peut indiquer là, dans le fichier Excel qu'est-ce qui sort automatiquement du compte de banque. Puis ensuite, ben, on peut sortir notre relevé de Visa ou Mastercard là, des 3-4 derniers mois, puis regarder, ben, c'était quoi le solde là, des 3-4 derniers mois. Et là, faites pas l'erreur de dire, « Ouais, mais là, ça, c'était pas pareil parce que j'ai acheté ci. Ah, puis là, non, ça compte pas parce que j'ai acheté ça. » Il y a toujours des imprévus. Fait que c'est ça le solde. Faites la moyenne des 4, 5, 6 derniers mois divisé par le nombre de mois. Puis mettez ça comme dépense variable si vous avez l'habitude de sortir du cash de vos comptes. Donc, tu sais, estimez un peu les dépenses variables. Puis ça permet d'avoir un petit peu une idée. Puis si jamais il y a un mois où on a des dépenses excédentaires, on vient mettre dans notre solde Visa plus élevé qu'on prévoit, il reste-tu de l'argent?
Bien, puis moi, je trouve que c'est utile aussi pour les gens peut-être qui ont 70 ans, 75 ans, ils n'en ont jamais eu, puis ils se disent, bien, pourquoi je ferais ça? Un jour, si vous êtes inapte, si vous décédez, il y a de l'information super pertinente là-dedans pour la personne qui va s'en occuper. Et nous, on a réalisé, quand ma mère elle est décédée au mois d'octobre, que je lui avais demandé de me faire un budget pour faire une planification. Donc, j'avais toute l'information. Ma sœur, elle a quand même dû aller faire de la recherche dans ses comptes pour voir c'est quoi les factures à payer, parce que c'est pas mon papa qui s'occupe des finances. Ça a été ardu comme travail. Donc, c'est très gentil de faire ça pour la personne qui peut s'occuper de votre succession ou qui peut s'occuper de vous en cas d'inaptitude. Ouais.
Fait que là, dans notre fichier Excel, on a notre budget sur la première table. Là, on rouvre une autre petite table à côté puis on fait l'inventaire de nos biens. Donc, si jamais il arrive un sinistre dans votre maison, on cogne du bois, on ne veut pas que ça arrive, mais la maison brûle, l'assureur va vouloir avoir une idée de qu'est-ce que vous possédiez. Fait que promenez-vous dans votre maison avec votre téléphone, puis filmez l'entièreté de votre maison, ouvrez les tiroirs, ouvrez les portes. Et puis, gardez ce film-là dans votre nuage, dans votre cloud. Donc, si jamais il arrive un sinistre, bien, sur la caméra, on va voir un ordinateur, un bureau, une table, un tableau. On va voir les biens. Fait que ça fait votre preuve à l'assureur comme quoi vous possédiez ces biens-là.
Ça, c'est vraiment très facile à faire. Hein? Ouais. C'est un super bon
5 minutes, puis ça nous donne une preuve là, formelle comme quoi, oui, on possédait, là, voici ce que je détenais au moment du sinistre. Puis on va vous suggérer aussi de faire donc l'inventaire de vos contrats d'assurance là-dedans. Donc, si j'ai de l'assurance vie, de l'assurance invalidité, maladie grave, ben tu sais, c'est qui l'émetteur, c'est qui l'assuré, c'est qui le bénéficiaire, c'est quoi le numéro de la police, puis c'est quoi le montant de la protection. Et ce fichier-là, ben si on veut le, du moins partager l'existence du fichier et sa localisation avec le proche, le liquidateur, quelqu'un, là, c'est une bonne pratique. Là, t'sais, juste de dire, advenant qu'il arrive quelque chose, ben dans mon ordinateur, dans les fichiers, il y a un fichier qui s'appelle budget, va là-dedans, tout est là. Et les liquidateurs, ça va les aider beaucoup là, à retracer les données. Fait que ça, c'est un petit peu plus de temps, mais ça se fait très bien avec un laptop sur le bord de la piscine avec un petit cocktail frais.
Mais on appelle ça un dossier de vie. Donc, c'est super utile. Puis cet été, qu'est-ce qu'on veut que vous fassiez? C'est pas mordre tout le gâteau, essayer de manger tout le gâteau, mais mordre des petits morceaux puis en faire un petit peu ici et là pour vous aider à avancer dans votre gestion de patrimoine. Et bien entendu, Martin et moi sommes vraiment toujours là. On a des trucs qu'on a appris de nos clients, on a des trucs que nous-mêmes, on a développés. Donc, on est très heureux de partager avec vous les meilleures pratiques des autres. Donc, merci beaucoup, Martin. Automatiser, faire le ménage, s'assurer que tout est en ordre côté gestion de patrimoine cet été. Prenez le temps de vous reposer aussi. Par contre, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels, communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.